Le journal de Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, une charge de police très controversée lors d'un concert à Nantes. C'était il y a 3 jours. Une évacuation musclée qui s'est soldée par la chute dans la Loire de près d'une quinzaine de personnes. On reste sans nouvelles d'un jeune homme, précision à suivre. Un cran de plus dans la canicule, il va le faire encore plus chaud aujourd'hui sur toute la France. Face à cet épisode exceptionnel, le secteur du bâtiment tente de s'adapter, nous serons à Grenoble. Dans ce journal également, un rapport qui relance le débat sur les impôts des entreprises. La nouvelle initiative diplomatique américaine dans le conflit israélo-palestinien présentée aujourd'hui à Bahreïn. Et puis, les 10 ans de la mort de Michael Jackson avec une image largement écornée aujourd'hui de la star aux États-Unis.
Et je vous rappelle que Léa Salamé, dans 20 minutes à 7h50, reçoit aujourd'hui l'animateur et producteur de télévision Thierry Ardisson.
France Inter.
Que s'est-il passé sur les bords de Loire à Nantes, Sébastien, le soir de la fête de la musique?
C'était dans la nuit de vendredi à samedi, la fin d'une soirée électro a mal tourné entre jeunes et forces de l'ordre, des affrontements qui se sont soldés par 14 personnes tombées dans le fleuve. Depuis, un jeune Nantais reste introuvable. Une enquête judiciaire pour disparition inquiétante a été ouverte hier, un appel à témoins lancé. Alors la police a-t-elle agi de façon disproportionnée? L'IGPN a été saisie pour tenter de reconstituer les faits. Les précisions de Sophie Parmentier.
La police des polices est chargée d'enquêter sur tous les CRS et policiers de la sécurité publique qui étaient chargés d'assurer le maintien de l'ordre à Nantes cette nuit de la fête de la musique où tout a dégénéré vers 4h du matin autour d'une discothèque mobile des bords de Loire. La sono devait normalement être coupée, des couche-tards ont voulu continuer à danser et c'est alors que les premiers gaz lacrymogènes ont été lancés. En réponse à des jets de pierres et de bouteilles, se justifie la police, mais la violence était disproportionnée, estime Dorine, une fêtarde jointe par Wafia Kenich.
On s'est fait gazer, il y a eu des énormes nuages de fumée, des lacrymogènes, qui nous piquaient les yeux, qui nous piquaient la gorge. Moi, je me suis retrouvée en première ligne, j'ai vu des grenades d'anti-encerclement, j'ai vu les chiens, j'ai vu une fille qui a été matraquée. Il y a eu une dizaine de personnes qui est tombée dans l'eau. Donc en courant, bah avec la peur, les fumées, et puis il y a eu l'alcool aussi. Donc les gens, ils ont couru, et certains, dans la nuit, n'ont pas vu la Loire.
Cette jeune fille aurait dû rentrer de la fête avec son ami Steve, ce jeune homme de 24 ans qui reste porté disparu et pour lequel la police a lancé hier un appel à témoins. Dorine est d'autant plus inquiète que Steve ne savait pas nager.
Sophie Parmentier du service police-justice de France Inter. Impossible à ce stade d'établir réellement un lien entre la charge policière de ce week-end et la disparition de ce jeune Nantais. Hier, un hélicoptère et un bateau ont été mobilisés pour tenter de le retrouver.
Il est 7h33 et on va prendre encore, Sébastien, quelques degrés aujourd'hui.
Et c'est surtout demain que le seuil psychologique des 40 degrés devrait être atteint à Besançon, Nevers, Clermont ou Lyon. La ville de Grenoble aussi devrait les frôler avec 39 degrés. Un calvaire pour les ouvriers du bâtiment qui, sur le papier, ont le droit de décaler leur chantier, mais dans les faits, ce n'est pas toujours possible. Exemple avec cet ouvrier, Joseph Tomasino, qui travaille en plein centre-ville de Grenoble et qui fait ce qu'il peut.
On n'a pas l'habitude de la chaleur, on ne peut pas dire qu'on a l'habitude de la chaleur. On se prépare. On a fait le plein d'eau, on a beaucoup de bouteilles d'eau, on peut boire à volonté, on n'a pas de soucis. Et on a des consignes, si vraiment il fait trop chaud, que la chaleur devient insupportable, on se met à l'ombre, on se repose.
Et vous décalez les chantiers un peu, vous commencez plutôt le matin?
La plupart de nos chantiers sont décalés, on commence plus tôt. Mais là ici en centre-ville, non, apparemment on n'a pas eu l'autorisation parce que justement on fait trop de bruit et commencer à 6h ça serait dérangeant pour tout le monde. Donc nous on s'adapte au travail et à la météo en même temps.
Un rappel avec cette mesure prise hier, mesure inédite, le report du brevet des collèges, près de 700 000 élèves et leurs parents concernés, le brevet qui aura donc lieu lundi et mardi prochain au lieu de ce jeudi et de ce vendredi. Autre mesure annoncée aujourd'hui par le ministre de la Transition énergétique, François de Rugy, un nouveau dispositif pour les véhicules polluants à Paris avec un déclenchement automatique de la circulation alternée au-delà d'un certain seuil de pollution et interdiction des véhicules vignette critère 3 jusqu'ici autorisée. Les montagnards, eux aussi, vont-ils devoir s'adapter à la canicule et mettre un t-shirt pour gravir le Mont Blanc? L'isotherme 0 degré atteint en effet des sommets cette année. Il était hier à 4600 mètres, c'est-à-dire qu'il ne fait 0 degré qu'au-delà de cette limite. Et à ce rythme-là, il n'est pas impossible qu'on ait des températures positives, même tout en haut du toit de l'Europe, à 4810 mètres exactement. Alors est-ce vraiment nouveau et inquiétant? Sophie Becherel a posé la question à des glaciologues.
Avec 35 degrés dans la vallée, les sommets de Chamonix aussi ont chaud. Trouver des températures positives à 200 mètres sous le sommet du Mont Blanc n'est plus si rare, selon Ludovic Ravanel, guide de haute montagne et chercheur au CNRS.
Malheureusement, c'est de moins en moins exceptionnel. C'est des choses qui ont été déjà vues dès l'été caniculaire 2003, qui sont reproduites peu ou prou en 2015, en 2017, en 2018. Donc c'est des choses malheureusement qui devraient être exceptionnelles, mais qui le sont de moins en moins.
Ce qui frappe, c'est la précocité de l'épisode cette année. En conséquence, la fonte des neiges et le dégel ont déjà commencé. Christian Vincent est glaciologue à l'Institut des géosciences de l'environnement.
Lors de canicules, on observe des fontes très très intenses. Lorsque la température atteint 35 degrés, vers 2500 mètres, on a une fonte qui est de l'ordre de 10 cm par jour.
Plus haut, les taux de fonte baissent. Néanmoins, les chercheurs observent un autre phénomène.
Ça influe sur la température interne de ces glaciers qui sont à très haute altitude. Depuis 1994, la température interne de ces glaciers, elle a très nettement augmenté. Et dans le futur, si ces glaciers deviennent tempérés, c'est-à-dire à 0 degré, il y aura de l'eau qui circulera, notamment à la base des glaciers, et ces glaciers risquent d'être déstabilisés.
Le risque augmente alors pour les habitations situées en dessous de voir tout ou partie du glacier leur tomber sur la tête. À Chamonix, c'est le Tacona qui est particulièrement surveillé.
Sophie Becherel, le gouvernement va-t-il à nouveau baisser les impôts sur les entreprises? C'est clairement le souhait, en tout cas, d'une instance rattachée à Matignon. Le Conseil d'analyse économique, le CAE, publie aujourd'hui une note qui prône la suppression de certains impôts de production. Ces impôts liés à l'activité des entreprises, quels que soient leurs bénéfices, autrement dit, c'est leur chiffre d'affaires là qui est taxé. Une taxe beaucoup plus lourde en France qu'ailleurs, selon ce rapport qu'a lu Delphine Simon.
Ces impôts de production, ils pèsent 6 fois plus qu'en Allemagne sur la richesse générée par les entreprises. Dans le viseur du CAE, une myriade de taxes sur le foncier, mais surtout celle qui frappe le chiffre d'affaires des entreprises, la C3S. Elle plombe les exportations et pèse par ricochet sur les TPE-PME. Philippe Martin, le directeur du Conseil d'analyse économique.
C'est la taxe la plus stupide et la plus nocive qu'on puisse inventer. Et d'ailleurs, la France est le seul pays qui a gardé une taxe sur le chiffre d'affaires. C'est vraiment une priorité de l'éliminer parce qu'elle grève la compétitivité des entreprises et même, pour un certain nombre d'entre elles, leur survie.
Une taxe que le gouvernement Hollande avait déjà prévu de supprimer avec le pacte de responsabilité, mais on n'est jamais allé jusqu'au bout, rappelle Philippe Martin.
Politiquement, que ce soit pour un gouvernement de gauche ou de droite, c'est toujours gagnant de dire « je vais aider les PME », qui est à mon avis une erreur, parce que les exportations sont très concentrées sur les grandes entreprises. Donc si on veut exporter plus, ça passe de toute façon par une baisse des charges pour aussi les grandes entreprises.
D'accord, sur le principe, Bercy pourrait s'en inspirer, mais pas tout de suite. La priorité actuelle est plus du côté des ménages que de celui des entreprises.
Delphine Simon, en bref, encore en économie, la naissance d'un géant français et mondial dans l'informatique, Capgemini rachète le groupe de conseil en technologie Altran. L'opération doit être finalisée d'ici la fin de l'année. Cette nouvelle entité de plus de 250 000 salariés pourra compter sur un chiffre d'affaires annuel de 17 milliards d'euros.
Il est 7h38, miser sur l'économie plutôt que sur le politique, c'est la stratégie, Sébastien, la stratégie américaine pour sortir de l'impasse, le conflit israélo-palestinien.
Conférence aujourd'hui et demain à Manama, la capitale du Bahreïn, avec plusieurs pays arabes auxquels Washington va donc demander de s'engager financièrement. L'administration Trump envisage de rassembler 50 milliards de dollars pour les Palestiniens. Les Palestiniens qui, pour le moment, boycottent cette nouvelle initiative diplomatique. À Jérusalem, Étienne Monin.
Avec cette formule, les Américains sont soupçonnés de vouloir changer encore un peu plus les paramètres de règlement du conflit en remplaçant la politique par l'économie, le droit par le développement. Les Palestiniens disent qu'ils ne sont pas à vendre. Le président Mahmoud Abbas prédit un échec. À l'OLP, Anan Ashraoui estime que cette conférence est un leurre.
La conférence de Bahreïn, c'est clairement la suite d'une longue comédie. C'est une façon de contourner les vrais problèmes qui sont politiques et légaux en donnant plus de temps aux Israéliens pour qu'ils avancent encore sur le terrain.
L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les pays en pointe dans cette conférence, mais les participants arabes ont pris soin de ne pas isoler les Palestiniens. Il n'y aura pas grand-chose à la sortie, prédit notamment le politologue palestinien Hassan Khatib.
Je ne m'attends pas à ce qu'il sorte quelque chose d'important dans cette conférence, parce que les Palestiniens qui sont censés être au centre seront absents. Et la plupart des pays arabes qui participent y vont uniquement à cause des pressions qu'ils ont subies. Ils ne sont pas convaincus.
Il y a 6 ans, John Kerry avait déjà promis un plan de relance. Depuis, les finances palestiniennes sont dans une situation inquiétante. Jérusalem, Étienne Monin, France Inter.
Il est 7h40, il y a 10 ans, jour pour jour, Sébastien Michael Jackson mourait chez lui d'une overdose.
Une overdose de propofol, un puissant anesthésique. 10 ans après, l'image du roi de la pop a bien changé. En cause, la diffusion de Leaving Neverland en mars dernier, ce documentaire dans lequel 2 hommes détaillent les abus que leur a fait subir la star lorsqu'ils étaient enfants. Ce film a jeté une ombre sur les célébrations de cet anniversaire. À Los Angeles, Loïc Piala.
L'an dernier, Sony a dépensé 250 millions de dollars pour acquérir les droits du catalogue de Michael Jackson. Pourtant, la maison de disques n'a sorti aucun album à l'occasion de ce 10e anniversaire. Les chaînes NBC, ABC et CBS, jamais avares de rétrospectives, n'ont pas non plus prévu d'émission spéciale. Difficile de ne pas y voir une conséquence du documentaire Leaving Neverland. Les Los Angeles Lakers ont remplacé Beat It par Nirvana pendant leur match. Des radios ont cessé de diffuser ses chansons. Starbucks ne les joue plus dans ses cafés. L'épisode des Simpsons dans lequel il faisait une apparition n'est plus disponible. Louis Vuitton a retiré de la vente les articles de sa collection inspirée de la star. Et le fameux ranch de Neverland, mis en vente 100 millions de dollars en 2015, n'en coûte plus que 30 aujourd'hui. Mais ce serait une erreur d'imaginer que la marque Michael Jackson ne vaut plus rien. Chaque semaine, sa musique est toujours écoutée 16 à 17 millions de fois sur les sites de streaming, autant qu'avant la diffusion du documentaire. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Et puis ajoutons que depuis sa mort, Michael Jackson a rapporté près de 2,5 milliards de dollars.
Merci Sébastien Legénie.